RFI.
18h30 ici à Paris, le débat du jour nous emmène à présent ce soir dans les prisons françaises.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, que se passe-t-il réellement dans les prisons françaises? Ces dernières semaines, on a entendu parler de soins du visage pour les détenus ou encore de dance country proposés dans une maison d'arrêt près de Toulouse. Ça n'a pas du tout plu au garde des Sceaux Gérald Darmanin qui a annoncé dans la foulée eh bien, l'arrêt de toutes les « entre guillemets activités ludiques ». Décision dénoncée par une trentaine d'organisations de défense des droits des détenus. D'où notre question ce soir, est-ce qu'il faut durcir les conditions de détention en France? Quelles sont les priorités pour favoriser la réinsertion? Quel clivage, surtout, ce débat révèle-t-il? Eh bien, soyez les bienvenus sur RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir à mes côtés en studio, Jean-François Fogliarino, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du syndicat national des directeurs pénitentiaires CFDT. Face à vous, Prune Missoff, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable analyse et plaidoyer à l'Observatoire international des prisons, qui fait partie de toutes ces organisations signataires de cette tribune que j'évoquais en réponse au garde des Sceaux. Et bonsoir Elsa Faucillon.
Bonsoir.
Notre troisième invité en ligne avec nous ce soir, députée des Hauts-de-Seine du groupe Gauche, Démocrate et Républicaine et co-rapporteur d'une mission d'information sur les alternatives à la détention et l'éventuelle création d'un mécanisme de régulation carcérale. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. On va camper le décor. Jean-François Fogliarino, à quoi ressemblent aujourd'hui les conditions de détention en France? Parce que le débat, il commence là, entre ceux qui vont dire que il y a plusieurs matelas, même le sol, des cafards, des punaises de lit, et puis tous ceux qui disent prison Club Med, tout confort, télévision. Quelle est la réalité des prisons françaises aujourd'hui?
Alors, comme toujours, je me présente tout d'abord. Moi, je suis représentant des directeurs pénitentiaires qui sont à la fois des directeurs de prison, mais aussi des directeurs de services d'insertion probation. J'ai été moi-même directeur de service d'insertion probation pendant des années. La réalité, comme vous le dites, elle se retrouve toujours au milieu.
D'accord.
C'est jamais cette vision qu'on peut avoir des extrêmes. Et ce qu'il faut connaître et voir d'une prison, c'est qu'il faut y entrer, en fait. Il faut se rendre compte de ce qu'est la réalité de la vie en détention. C'est très compliqué de faire justement cette généralité qui peut être vécue comme dans l'opinion publique, comme ressortir d'un exemple précis et parfois même imprécis, dans le cas de figure, pour se faire une idée générale. Ce que nous recherchons, nous, directeurs pénitentiaires, c'est à quoi servent les activités en détention, si on prend cet exemple très précis. Et pour nous, c'est très clair. Ça sert à réinsérer les personnes détenues pour éviter la récidive et travailler à ce qu'ils puissent sortir et faire des activités qui leur permettent de modifier et de sortir de la délinquance. Là, on sera très clair.
La récidive, alors, il y a un chiffre qui est important, plus de 60%, ça va peut-être être le fil conducteur de notre débat ce soir, plus de 60% de récidive dans les 5 ans qui suivent la sortie. Prune Missoff, vous êtes d'accord avec ce premier constat, Jean-François Fogliarino, la réalité, alors je ne sais pas si ça dépend des prisons, mais elle est au milieu entre justement la prison Club Med et puis les matelas, même le sol, infestés de punaises de lit.
Alors, moi, je serais peut-être moins nuancée dans ma réponse. La France, elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme il y a 5 ans pour traitement inhumain ou dégradant qui était infligé aux personnes détenues dans un certain nombre de prisons françaises. En raison, des conditions de détention et deux, de conditions de détention qui étaient encore aggravées par une surpopulation structurelle. Un entre-deux avec le Club Med, ça me semble assez compliqué à trouver quand on décrit de telles situations. Il y a effectivement des nuisibles. Quand vous dites quelques matelas au sol, en fait, il y a 4310 matelas au sol. Et quand on dit il y a des matelas au sol, en fait, ce sont des personnes qui sont contraintes de dormir sur des matelas posés à même le sol, à côté d'un lit superposé, à 2 mètres des toilettes qui souvent sont pas ou mal cloisonnées sur la cellule, où il y a un espace de mouvement dans la cellule qui est extrêmement réduit. Et ça, dans les maisons d'arrêt, où vous avez un taux de surpopulation qui est à 156% en moyenne aujourd'hui en France, c'est 22 heures ou 23 heures sur 24. Donc c'est quand même une situation extrêmement problématique et je décris juste en 3 mots Toulouse-Seyss, la prison où a démarré cette polémique. C'est plus de 1300 personnes détenues, 214% de surpopulation carcérale, et c'est une prison où il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une personne détenue qui a attrapé une maladie qu'on attrape par l'urine de rat. Voilà.
22h, 23h, voire 24h sur 24 dans la cellule, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité proposée ?
En fait, ça veut dire que dans ces maisons d'arrêt, il y a une telle surpopulation carcérale que l'accès aux activités est plutôt une exception qu'un principe. Alors que normalement, c'est censé être le contraire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le travail qui a été beaucoup mis en avant par le garde des Sceaux, il n'y a que 30% des personnes détenues qui ont accès à une activité de travail. Et on ne parle pas nécessairement de travail à temps plein, alors qu'il y a une demande extrêmement forte. Une énorme majorité des personnes détenues souhaitent travailler. Donc, ce n'est pas du tout une mauvaise volonté de la part des personnes détenues, c'est qu'il y a des carences d'accompagnement, de propositions d'activité, mais aussi d'accès aux soins, en fait, qui sont complètement structurelles et qui appellent à une réponse, en fait, avant tout de la part du garde des Sceaux, sur la surpopulation carcérale. Et il y a des mesures qui sont aujourd'hui, qui existent, comme la régulation carcérale, qu'il faut absolument mettre en œuvre de toute urgence.
Et j'ajouterais justement que cette obligation qu'a l'administration de proposer des activités et de proposer du travail est inscrite dans une loi de 2009 qui s'appelle la loi pénitentiaire. Et c'est quelque chose que les directeurs eux-mêmes essaient de faire, de trouver des intervenants pour les activités, de trouver des concessionnaires pour proposer du travail, toujours dans cette idée de faciliter la réinsertion.
On va évoquer les activités proposées en prison. Quelles activités sont-elles adaptées ? Elsa Faucillon, je voudrais d'abord terminer le tour de table sur les conditions de détention en prison. Qu'est-ce qui ressort sur ce plan-là du rapport que vous avez publié en 2023 ? Et où est-ce que vous vous situez entre ce qu'a dit Prudmissoff et Jean-François Fogliarino ?
Écoutez, je n'ai jamais été au Club Med, mais ça me semble en tout cas effectivement le plus éloigné possible de ce que peut être ce centre de vacances. Il y a effectivement un taux de surpopulation très haut, une promiscuité aussi très très importante. De fait, quand vous êtes trois, parfois quatre, dans une toute petite cellule avec des toilettes dont la porte ne ferme pas, trois douches par semaine, je ne crois pas qu'on puisse se dire qu'on est à un juste milieu entre le bagne ou le Club Med. La question qui est centrale, à mon avis, c'est quelle mission on donne à la prison. Aujourd'hui, d'abord, rappelons-le, dans la prison, dans les prisons françaises, il y a et des prévenus et des condamnés, des gens qui sont en attente de procès pour savoir s'ils vont être condamnés ou non. Et dans les prisons aujourd'hui, il y a la question évidemment du rapport à ce qu'ils ont commis, à ce que les détenus ou les prévenus ont commis, mais aussi quelle sera la page d'après. Monsieur Fogliarino l'exprimait, c'est quoi la suite ? Quelle personne sera le détenu ou le prévenu quand il sortira des prisons françaises ? On évoque souvent la place des victimes, mais les victimes, elles n'ont pas soif de sang. Les victimes, elles veulent à la fois que la peine encourue soit faite, mais aussi qu'il n'y ait plus de nouvelles victimes. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, nos prisons en France, ne sont plus en capacité de remplir la mission pour laquelle elles sont là aujourd'hui. Leur mission aussi de réinsertion. Et je dirais que ça, c'est très grave et qu'il faut écouter à la fois les associations qui défendent des conditions dignes en prison, mais aussi des associations d'agents pénitentiaires qui disent qu'ils n'en peuvent plus et qui demandent des solutions et qui ne sont pas des solutions revanchardes ou uniquement de répression, mais aussi des solutions pour prévenir la récidive. Il faut les entendre.
Alors, les activités proposées en prison doivent permettre de favoriser la réinsertion. On y vient, puisque la question qu'on pose ce soir, c'est est-ce qu'il faut qu'on durcisse les conditions de détention en France ? Et à la base, il y a une polémique sur les activités entre guillemets ludiques. On va y venir. Jean-François Fogliarino, quand Prudmissoff dit que finalement, les activités aujourd'hui sont davantage une exception qu'un principe, vous avez dit qu'elles étaient inscrites dans la loi. C'est quoi la réalité ?
Alors, elles sont inscrites dans la loi et l'administration a l'obligation de proposer justement ce travail, ces activités. Et je ferai une distinction, je pense avoir été un peu mal compris dans ce que j'ai dit en introduction, entre les centres de détention, prison en fait pour peine, où les personnes sont condamnées et exécutent leur peine et qui en général ne sont pas justement surpeuplées. Ouais. Et les maisons d'arrêt, vous avez raison, mon ami Sauf, de mettre en avant la surpopulation en maisons d'arrêt, qui sont vraiment pour le coup, ces prisons, ces lieux de détention qui sont les plus en difficulté actuellement, avec un nombre très important de personnes prévenues en attente de jugement, entre 30 et 40%. Donc, c'est ce travail-là sur les maisons d'arrêt qui est vraiment la priorité pour nous.
Et selon les établissements concernés, les activités ne sont pas les mêmes et sont plus ou moins, pour reprendre l'expression de Prudmissoff, davantage une exception ou un principe.
Alors, il faut se rendre compte que la présence en maison d'arrêt, le temps de détention moyen en maison d'arrêt, c'est 4 mois. Et que bien souvent, en fait, c'est un turnover très important d'arrivants qui font ces quelques mois et qui ressortent de prison. Donc bien souvent, ils n'ont même pas le temps d'accéder à ces activités. Et comme vous l'avez très bien dit, Madame Missoff, il y a de toute façon un tel nombre de personnes détenues qu'il y a des listes d'attente. Mmh. Sur les centres de détention, c'est un peu différent. Du terme un peu plus long, voire très long sur les très longues peines, et donc la possibilité de mettre en place des activités vraiment structurantes.
Jean-François Fogliarino, vous qui êtes secrétaire général du syndicat national des directeurs pénitentiaires, CFDT, à quel point est-ce que ces activités sont importantes pour les détenus? À quel point est-ce qu'elles sont clés en vue d'une réinsertion?
Alors, pour nous, c'est central.
Ouais. Si et on quelles, fait... activités
quelles activités? Mais je dirais que, en fait, les activités les plus structurantes, c'est celles qui ont un impact sur la personne, son devenir et son avenir. Des activités qui lui permettent d'avoir accès à des choses auxquelles il n'a pas forcément eu accès à l'extérieur. Il y a quand même des pourcentages très impressionnants de personnes qui n'ont même pas un niveau scolaire basique, qui n'ont pas de diplôme lorsqu'ils rentrent en détention. Donc ces activités autour de l'acquisition de savoir, de la possibilité aussi de réfléchir à, quelque part à son cheminement, à pourquoi on se retrouve en détention, et les activités en recherche de sens. Moi, ce qui m'a marqué, c'est par exemple certaines activités qui ont été commentées, critiquées, par exemple telles le yoga. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai travaillé dans un établissement où on avait des détenus qui avaient des profils d'intolérance à la frustration et de violence. Et s'il y a une activité qui avait pu permettre justement de les faire travailler sur cela, c'est ce type d'activité qui, en plus, si vous regardez un peu dans les textes, est considéré comme un sport.
C'est une activité. Ah, donc c'est pas une activité ludique au titre de sens. Gérald Darmanin. Prudmissoff.
Alors, je rebondis juste là-dessus, mais effectivement, ludique, ça veut tout et rien dire. C'est aussi toute la difficulté. Et derrière, il y a quand même toute la question de la confiance qu'on peut avoir dans les personnels qui organisent ces activités et qui sont au plus près de la population carcérale et sûrement les mieux à même quand vous coordonnez les activités culturelles ou l'insertion et la probation en prison. Vous êtes sûrement au meilleur endroit pour savoir ce qui va pouvoir être utile pour accompagner les personnes détenues que vous voyez déjà trop peu. Mais je voulais surtout revenir sur deux choses qui ont été dites. Effectivement, c'est tout à fait juste de dire qu'il y a différents types de prisons en France. Ouais. Et donc, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Après, je précise tout de même que je ne crois pas qu'il y ait une prison en France aujourd'hui qu'on puisse qualifier de Club Med. Mais les maisons d'arrêt dont on parle pour la surpopulation carcérale et d'où est partie la polémique à Toulouse-Seyss, c'est quand même quasiment 70% des personnes détenues.
Ouais.
Donc, on parle quand même de la large majorité des personnes détenues et on parlait aussi des personnes prévenues qui attendent leur jugement. On parle de plus de 20 000 personnes en France. Donc, on n'est pas sur...
Finalement, on n'est pas sur une exception.
Non, on
ce qui s'est passé
pas
à Seyss pourrait se passer dans n'importe quelle maison d'arrêt. Cette polémique, on va revenir. Je voudrais entendre Jean-François Fogliarino, évidemment, je vais vous donner la parole après, et à Elisa Faucillon également. Mais sur, justement, la polémique, ça a été soin du visage pour les détenus à l'occasion de la Saint-Valentin, la semaine dernière, dans ce country, dans cette prison surpeuplée, effectivement, de Seyss. Le syndicat FO Justice de la maison d'arrêt s'est indigné de cela. Vous, en tant que secrétaire général du syndicat national et directeur pénitentiaire CFDT, est-ce que vous aussi vous vous indignez de cela?
Vous voyez, on nous demande si on s'indigne. Mais moi, je vais vous répondre plus largement. La question, c'est est-ce qu'on peut se questionner sur des types d'activités? Je dis oui. Est-ce que j'étais présent ce jour-là pour voir qu'est-ce qui se passait exactement? Je dis non. Donc là aussi, c'est une question par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire avec les personnes détenues.
La question, est-ce que c'est la priorité ce type d'activité aujourd'hui?
Mais ce n'est pas une priorité puisque c'est une exception. Donc à aucun moment aujourd'hui,
oui, mais ça aurait pu
ce type d'activité
vous
est une priorité.
Vous dites que finalement, cette prison, cette maison d'arrêt, elle est assez symbolique de la détention française. Donc on aurait pu la retrouver à l'appréciation
de nombreux établissements. Alors moi, je parlais de l'indignité des conditions de détention. Je ne parlais pas de cette activité. Ça dépend vraiment des propositions. En fait, vous voyez, ce qui a été peu dit, c'est que cette activité, elle a été proposée de manière bénévole par des étudiants. Donc, en réalité, ça pourrait arriver dans n'importe quelle prison. Ça ne veut absolument pas dire que ça arrive dans toutes les prisons, puisque c'est à la bonne volonté de personnes qui acceptent de consacrer du temps de manière bénévole pour venir offrir ces temps d'échange aux personnes détenues.
Mais est-ce que c'est une fausse polémique selon vous, ou est-ce que finalement ça révèle le fait que ces activités soi-disant ludiques, soi-disant secondaires, sont peut-être prioritaires selon vous ?
Alors non, je répète, elles ne sont absolument pas prioritaires. Donc c'est effectivement une fausse polémique. C'est une polémique en fait. C'est une polémique qui part de pas grand-chose, qui part beaucoup de désinformation, qui fait énormément de dégâts puisque depuis, on a des remontées de terrain qui montrent qu'il y a beaucoup d'activités qui sont suspendues, arrêtées, qu'il y a un risque d'autocensure aussi ensuite dans la proposition d'activité. Et je crois que la question, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez abordé la question du taux de récidive. On a à peu près 60, c'est-à-dire 6 personnes sur 10, quand elles sortent de prison, dans les 5 ans, elles sont de nouveau condamnées. Donc la question, c'est, je pense qu'elle est en deux temps. C'est un, les personnes détenues, ce sont des sujets de droit. Ils ont été enfermés parce qu'ils ont été privés de leur liberté d'aller et de venir, point. Donc, ils ont le droit d'avoir des activités, et quand bien même ce serait une activité plaisante, dans le cadre de laquelle ils pourraient ressentir un sentiment peut-être de joie à un instant T. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre le problème, si ce n'est dans ce cas. Alors, on veut faire de la prison un outil de vengeance collective où on veut que les personnes souffrent dans leur chair H24. Mais derrière, que se passe-t-il ? C'est-à-dire, comment ensuite attend-on de ces personnes qu'elles retrouvent une place dans la société ? Qu'elle refasse corps social avec nous et qu'elle ne récidive pas.
Non, on peut poser la question sous cette forme. Quelles conditions de détention pour prévenir la récidive ? Et donc, quelles activités adaptées pour répondre à ces conditions de détention nécessaires ?
Si je puis me permettre.
Jean-François Fugliarino, après on va entendre Elsa Fossi.
En tout cas, c'est respecter le droit et respecter des conditions de détention qui respectent les personnes qui sont détenues et qui n'aggravent pas leur situation. C'est simple, en fait. La surpopulation obère toutes nos capacités à travailler de manière intelligente et dans un but de prévention de la récidive avec les personnes détenues. C'est le nœud du problème.
Alors, le droit, justement, Elsa Fossillon, je vais citer cette circulaire destinée à la direction de l'administration pénitentiaire, écrite par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et qui affirme que, je cite, « Les personnes placées sous les mains de la justice peuvent participer à des activités proposées en détention dès lors qu'elles ont pour finalité un objectif de réinsertion ». Ça suit le débat que nous avons. Et d'ajouter, aucune activité ludique ou provocante. D'où ma question, vous qui êtes député des Hauts-de-Seine, du groupe gauche démocrate et républicaine, co-rapporteur d'une mission sur le sujet, est-ce que les activités ludiques n'ont pas pour finalité un objectif de réinsertion ?
Bon, d'abord, vous voyez bien que le terme en lui-même cherche la polémique, le terme de ludique. Des personnes, par exemple, sans abri, ont une activité qu'on appelle socio-esthétique, c'est-à-dire de voir un coiffeur, de voir une esthéticienne pour chercher, pour retrouver, se réapproprier de son corps. Est-ce qu'on pense que c'est une activité ludique ? Non, je ne le crois pas. C'est une activité socio-esthétique qui cherche à faire en sorte que les personnes se retrouvent et puissent se réinsérer, se remettre en selle dans la société. Quand on l'évoque comme ça, ça n'a rien de ludique. Je n'étais pas là non plus lors de l'activité qui a été proposée à la maison d'arrêt de Toulouse, mais vous voyez bien qu'il faut réinscrire à chaque fois les activités proposées par des personnels compétents qui connaissent les prévenus et qui cherchent ce qui va permettre à la fois parfois des activités effectivement qui peuvent amener de la joie, ça peut arriver, ou du bien-être, mais qui vont s'inscrire aussi dans un parcours pour se retrouver soi-même, un parcours pour se réinsérer dans la société. Là, les invectives du garde des Sceaux, clairement, elles cherchent la polémique, elles cherchent aussi à flatter, des peurs ou des aspirations peut-être tristes qui veulent faire de la prison, oui, un lieu de vengeance. Ce n'est pas un lieu de vengeance, la prison. C'est un lieu qui fait suite à des décisions de justice et qui cherche à ce que des personnes à la fois purgent une peine, et il n'est écrit nulle part, et encore heureux, et au contraire, je dirais, qu'elles doivent souffrir ad vitam aeternam. Mais en tout cas, ce qu'on doit chercher, c'est comment on fait en sorte que ces personnes ressortent d'une meilleure manière qu'elles sont entrées. Et c'est ça aussi qui est un respect pour les victimes quand il y a des victimes. Mais c'est aussi un respect tout simplement de la personne humaine.
Et on est quoi ? Ce que vous dites, je vais citer ces quelques mots qui figurent dans la tribune signée par l'Observatoire international des prisons, dont vous faites partie, Prune Missoff, également 30 autres organisations. Ces activités, je cite, ces fameuses activités ludiques, s'inscrivent dans un travail sur l'estime de soi et le lien social qui conditionne toute autre démarche d'insertion. Faut-il durcir les conditions de détention en France ? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour après cette polémique née à la maison d'arrêt de Seyss près de Toulouse autour de soins du visage pour détenus de danse country. Gérald Darmanin, dans la foulée, a annoncé l'arrêt de toute activité ludique entre guillemets. On en parle avec mes trois invités. Elsa Faucillon, que l'on entendait, qui est députée des Hauts-de-Seine du groupe Gauche démocrate et républicaine, co-rapporteur d'une mission d'information sur les alternatives à la détention et l'éventuelle création d'un mécanisme de régulation carcérale. Jean-François Fogliarino, secrétaire général du syndicat national des directeurs pénitentiaires CFDT, et Prune Missoff, donc responsable analyse et plaidoyer à l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Jean-François Fogliarino, que révèle ce débat ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un débat sur les activités qui sont proposées en prison et que de là pose la question de laxisme ou non en prison. Souvenez-vous, 2022, organisation d'une épreuve de karting à la maison d'arrêt de Fresnes. Mmh. Et c'est suite à cela que le garde des Sceaux de l'époque,
Monsieur
Dupond-Moretti, avait publié cette fameuse circulaire de 2022 sur qui encadrait les activités qui étaient tolérées en prison.
Alors, je dirais que ça révèle deux choses pour moi. C'est la méconnaissance par le grand public de ce qu'est une prison et le fait que la prison est devenue un objet politique qui est en train de se retourner contre ceux qui exécutent leur peine, mais également contre les professionnels du milieu carcéral. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit avoir une double action, une action de pédagogie, peut-être mieux expliciter les attendus de nos activités, mais aussi une action de franchise qui appartient aux politiques, de donner la possibilité aux professionnels de parler de leur outil de travail. Excusez-moi du terme, mais c'est quand même eux qui savent le mieux ce qui s'y passe et ce qu'ils essaient d'en faire.
Alors c'est intéressant quand Prune Missoff évoquait l'outil de vengeance, vous évoquez, et d'ailleurs dans la tribune Prune Missoff que vous avez publiée dans Ouest France la semaine dernière, vous dites voilà, la justice est quand même conçue pour sortir d'un système de vengeance individuelle et les discours politiques et médiatiques font de la prison un outil de vengeance collective, il s'agit de faire souffrir dans leur chair les personnes qu'on y enferme. Pourquoi y a-t-il ce ressenti d'une partie de la population française, Jean-François Fogliarino ? Et est-ce que ce n'est pas ce qui ressort finalement de la polémique actuelle ?
Alors, c'est très philosophique comme question. La prison, historiquement, a été vécue et présentée, alors je ne vais pas remonter jusqu'au Moyen-Âge, mais la création de la prison moderne, comme un lieu de rédemption. Quand les prisons étaient pour la plupart des lieux en fait, tenus par l'Église, c'était des lieux de rachat de l'âme. La Révolution française, on passe sur l'idée de réhabilitation. Réhabilitation par le travail. Par l'idée de faire quelque chose en détention, mais toujours dans cette idée de rachat, en fait. Et la prison moderne, telle qu'on la connaît, alors je situerai ça en 1945 avec l'arrivée d'un directeur d'administration pénitentiaire, Paul Amor, qui lui-même a connu les camps, qui a lui-même été emprisonné, c'est une nouvelle logique. C'est une logique de réinsertion et de réhabilitation de la personne détenue, mais au sens de lui permettre de revenir dans la société, de redevenir un citoyen. Donc, et là, je pense que l'opinion publique n'a peut-être pas suivi cela et n'a peut-être pas eu les moyens. Il y a certains pays, vous parliez de la possibilité de comparer avec d'autres pays, il y a certains pays, oui. Par exemple un pays qui est réputé pour la dureté de ses conditions de détention, qui est le Japon, où il y a des émissions de télé sur ce qu'est la prison. Sur ce qu'est la prison, voilà, avec l'information du grand public. Double effet, hein, à la fois peut-être montrer la réalité de ne pas aller en prison, mais aussi à quoi ça sert.
Alors la mission d'information, est-ce que c'est la priorité aujourd'hui pour une MISOF pour sortir des fantasmes qui sont liés à la prison? Et j'ai volontairement commencé l'émission sur est-ce que la prison elle est comme Med ou est-ce que c'est les matelas à même le sol, parce que c'est tellement fort dans une partie de l'imaginaire collectif en France. Comment est-ce qu'on sort de ce clivage pour s'attaquer aux vrais enjeux? Vous l'avez dit, la surpopulation carcérale, 150%, et puis ce taux de récidive, 60% des prisonniers dans les cinq années qui suivent la sortie.
Ben effectivement, la première chose à faire, c'est de lutter contre la désinformation de masse qu'on voit depuis vraiment une longue période maintenant et qui passe en fait avant tout par les discours politiques et les discours médiatiques, qui, main dans la main, crient constamment à plus d'insécurité. Et ensuite se servent de cette opinion publique qu'en fait ils ont contribué, si ce n'est ils ont entièrement fabriqué, et ils se fondent dessus pour dire « mais voyez, nous sommes obligés de proposer uniquement des mesures sécuritaires puisque c'est ce qu'attendent les Français de nous ». Mais en réalité, si dès le départ vous avez donné des informations qui sont fausses, en fait vous avez créé cette désinformation. Mais si vous voulez, là, par exemple, la surpopulation carcérale, dramatique aujourd'hui, on s'attend à 164% en 2025, ce sont les chiffres de l'administration pénitentiaire, en taux d'occupation moyen. C'est-à-dire que ça s'aggrave encore cette année. Pourquoi il y a de la surpopulation carcérale? Parce qu'on incarcère beaucoup plus qu'avant. En 40 ans, vous avez deux fois plus de personnes détenues pour 100 000 habitants en France. Et ça... vous écoutez les politiciens, vous écoutez les médias, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité. Pas du tout. Vous regardez, vous lisez, alors c'est plus long, c'est plus technique, vous lisez le rapport de la Cour des comptes, octobre 2023. Elle vous dit noir sur blanc, l'évolution du nombre de personnes détenues n'est pas due à l'évolution de la délinquance. L'administration pénitentiaire a publié un document dans lequel, très important, il dit deux éléments, conjoncturels, conjoncturels quand même là-dessus, c'est les crises économiques. Et quand les médias parlent sans cesse d'insécurité qui augmente le nombre de personnes détenues.
Elsa Faucillon, la question de la fin, vous qui êtes députée, est-ce qu'on peut dépolitiser le débat ou est-ce que c'est peine perdue? Il nous reste moins d'une minute, s'il vous plaît.
Alors d'abord, il faut du courage politique, sortir de ces discours politiques qui cherchent à, je dirais, flatter les peurs et qui accompagnent, je dirais, une extrême droitisation des idées sur la question. On n'est pas là pour la vengeance ou la loi du talion. Oui, il y a des choses qui existent. Il faut s'appuyer déjà sur les professionnels du monde pénitentiaire, de la probation et de l'insertion. Il faut moins de détenus dans les prisons. Et pour ça, il faut des aménagements de peine, mais pas des sorties sèches. Il faut des aménagements de peine intéressantes et qui vont accompagner individuellement les détenus. Et il faut sortir de cette espèce de démagogie qui cherche uniquement finalement à flatter un électorat et pas à régler la question. Les solutions à l'emporte-pièce, elles nous mènent droit dans le mur et elles ne créent que de la récidive et c'est extrêmement grave. Elles créent des conditions d'indignité pour les détenus, mais elles créent aussi de la récidive. Pour rappel, on est plutôt comparable à la Hongrie qu'à des pays qui ont fait le virage du tout carcéral. Et donc il faut sortir de ce tout carcéral.
Et on a fait le parallèle avec Primisoft tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Elsa Faucillon. Et merci à Jean-François Fogliarino. C'est déjà la fin de ce débat du jour. Florence Ponce était à la préparation et Hélène Avril à la réalisation. Rendez-vous sur rfi.fr pour le réécouter. Juste après le grand journal du soir, ce sera Afrique Soir. Il y a déjà Zéphirin Quadio qui est à mes côtés pour faire un petit point sur le programme. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Au programme dans 30 minutes sur RFI. La reprise à Rome de la 16e COP sur la biodiversité.
Absolument, une nouvelle séquence pour sortir du blocage nord-sud sur les financements censés aider à stopper la destruction de la nature. Pour mémoire, il y a 4 mois, les travaux avaient été suspendus à Cali, en Colombie.
Une initiative pour la mise en place d'un processus de paix en RDC.
Et oui, 2 semaines après le sommet conjoint de Dar es Salaam, la communauté de l'Afrique de l'Est et celle de l'Afrique australe nomment 3 anciens dirigeants africains facilitateurs du processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Merci Zéphirin Quadio. On vous retrouve dans 30 minutes, mais là en 30 secondes avant cela. C'est le grand